Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 8h24. Retenez bien ce nom, ce tout nouveau nom d'ailleurs, qui est le molnupiravir. J'essaye de bien le présenter, de bien le prononcer. Est-ce qu'on va enfin pouvoir soigner le coronavirus grâce à cette pilule ? On en parle avec notre invité Jean-Paul Stahl. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine infectieuse au CHU de Grenoble-Alpes. Le molnupiravir, c'est son nom, réduirait à 7% le risque d'hospitalisation un mois après une infection au Covid. C'est d'après un essai clinique publié il y a quelques heures. Est-ce que c'est une première depuis le début de la pandémie ?
Alors, ce qui est publié, ce sont les résultats intermédiaires. Mmh. Donc, et c'est publié, c'est un communiqué du laboratoire. C'est publié dans une revue scientifique.
Le laboratoire Merck. Donc, on est quand même au stade expérimental, quoi.
On en est encore à, effectivement, l'interprétation d'un essai clinique. Alors, ceci dit, cette molécule, elle est connue, hein. Elle était développée dans un premier temps contre la grippe. Et puis l'hépatite C. C'est vrai qu'elle semble avoir des effets, en tout cas in vitro, absolument plus considérables, plus efficaces que les autres molécules qui ont été utilisées jusque-là. Ouais. Là, on a un essai donc avec des données intermédiaires qui sont très encourageantes. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. Soyons optimistes, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'essai. Il faudra la fin de l'essai et il faudra une analyse, comme c'est normal, lors de la publication et non pas communication par le laboratoire, mais publication scientifique, une évaluation par les scientifiques.
Bien sûr, avant pour valider tout ça.
La validation finale.
Est-ce qu'on sait comment il fonctionne, ce médicament, Jean-Paul Stahl ?
Oui, on sait parfaitement bien comment il fonctionne. Il interfère en empêchant le matériel génétique du virus de se dupliquer. C'est-à-dire que, a priori, il n'est pas envisageable de l'utiliser en prophylaxie, en prévention, puisqu'il faut qu'il y ait du virus pour qu'il y ait une action.
Donc on attend de l'attraper, d'être dépisté, et ensuite on le prend.
Mais ça suppose aussi qu'on le prenne très tôt, puisque si on le prend tard, évidemment les dégâts sont déjà faits, et même si on empêche la réplication du virus, ça ne va pas avoir un effet significatif.
Il vaut mieux stopper plus tôt possible.
Il faut le prendre très tôt, ce qui suppose un petit problème logistique, mais qui peut se résoudre. Et puis surtout, il y a une alerte. Compte tenu du mécanisme d'action et compte tenu de ce que l'on connaît chez les animaux qui ont été utilisés pour l'expérimentation initiale, il y a une alerte sur un possible effet mutagène. Alors c'est un mot scientifique, mais qui veut dire attention, est-ce que ça provoque pas des tumeurs ?
Ah oui, d'accord. Donc, il faut quand même faire très, très attention et aller au bout.
Il faut faire très attention et il y a la sécurité du médicament qui est à évoluer. Ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, on va le confirmer. Mais ça veut dire qu'il faut le surveiller qu'il faut faire très attention avant de le prescrire à large aisselle. Ça va être le travail des agences du médicament. Que ce soit l'agence américaine, européenne ou française.
Exactement.
C'est leur travail que d'évaluer ça.
Ça veut dire en tout cas qu'on avance aussi sur les traitements et pas uniquement sur les vaccins. Merci beaucoup Jean-Paul Stahl.
Alors il faut redire quand même que ce traitement en aucun cas ne remplacera jamais la vaccination.
Et ça, ce sera le mot de la fin. Et d'ailleurs, ça ne sert pas à la même chose, la preuve. Parce qu'avec ce traitement à supposer qu'il marche et qu'il soit sans risque plus tard, il faut attendre d'attraper le virus. Si le vaccin vous empêche de l'attraper, c'est toujours mieux. C'est déjà ça. Merci beaucoup Jean-Paul Stahl.
Je vous en prie.
Professeur de médecine infectieuse au CHU de Grenoble-Alpes. Les amis, restez dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 8h28. Dans quelques minutes, on vous emmène au jardin avec Alain de la vie. Pourquoi il ne faut pas tailler tout et n'importe quoi dans votre jardin, même si c'est l'automne. Il vous dira tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis place au débat Sud Radio avec notre question du jour. Est-ce que l'école a surmonté la crise du coronavirus ? Vous votez sur Twitter. On en débat avec nos invités, enseignantes et parents d'élèves. Dans une dizaine de minutes, ce sera après les informations Sud Radio. À tout de suite. presque direction Alger. Ça, c'est l'ambassadeur d'Algérie en France qui est en direction d'Alger. De Paris à Alger, c'est la crise entre les deux rives de la Méditerranée puisque le gouvernement algérien a rappelé son ambassadeur pour consultation. La raison des propos au vitriol prêtés à Emmanuel Macron dans le journal Le Monde et ils n'ont pas été démentis. Bonjour à vous, Christian Macarian.
Bonjour.
Et bienvenue à nouveau sur Sud Radio. Vous êtes éditorialiste, spécialiste de politique internationale. Tout est parti manifestement d'un article du journal Le Monde hier dans lequel Emmanuel Macron estime que l'Algérie s'est construite sur, je cite, une rente mémorielle entretenue, je cite à nouveau, par le système politico-militaire. L'Élysée n'a pas démenti, c'est la preuve qu'Emmanuel Macron a bien dit ça en public.
Oui, il l'a dit en public devant une réunion de jeunes petits-enfants ou descendants de combattants algériens. Donc c'est une manière d'ancrer le problème des relations entre la France et l'Algérie dans une actualité effectivement très tendue. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron, évidemment, s'inscrit dans le contexte de la campagne électorale de la présidentielle de 2022. Oui. Emmanuel Macron a exprimé un point de vue que beaucoup de spécialistes peuvent partager. Parce qu'effectivement, le FLN, bien plus préoccupé...
Le parti au pouvoir à Alger.
Voilà, le parti au pouvoir à Alger depuis l'indépendance, semble bien plus préoccupé par le fait de désigner la France comme un bouc émissaire permanent de tous les problèmes algériens que de résoudre les propres problèmes à l'intérieur de son pays. Emmanuel Macron a choisi de tenir ce langage de la vérité, et il a évidemment pesé ses mots, et le terme de rente mémorielle est assez dur à recevoir pour les Algériens, mais d'un point de vue analytique global, il n'est pas inexact.
Non, on sent que vous êtes plutôt d'accord avec le constat. Alors Emmanuel Macron va encore plus loin puisqu'il évoque aussi une histoire officielle algérienne qui, selon lui, est totalement réécrite et s'appuie, je cite, sur un discours qui repose sur une haine de la France. Est-ce que ça, c'est la première fois qu'un président français tape aussi fort sur Alger ?
Alors, c'est la première fois que c'est dit haut et fort de façon publique. De façon souterraine, ça a été une opinion partagée par plusieurs présidents successifs. Et encore une fois, c'est la réalité de l'exploitation à laquelle procède le régime algérien par rapport à une période qui, quand même, est révolue. Donc, premièrement, on ne sort jamais de cette guerre d'Algérie à cause de ce discours-là, et il est temps quand même de tourner la page. Deuxièmement, on ne bâtit pas de futur. Et du point de vue des générations, des jeunes générations et des résultats du régime algérien que l'on connaît, puisque c'est quand même une misère endémique, une corruption terrible.
Malgré les richesses naturelles.
Il ne faut pas oublier non plus une guerre civile dans laquelle la France n'est pour rien quand même. Dans les années 90, qui a été absolument atroce et qui a opposé le régime algérien à des groupes islamistes extrêmement construits et offensifs. Il y a là, si vous voulez, une façon pour Emmanuel Macron de dénoncer des non-dits.
Ouais, voilà. Des non-dits entre Paris et Alger, ou plutôt de Paris vers Alger. Mais pourtant, Christian Macarian, le même Emmanuel Macron, il y a 4 ans, avait été félicité par Alger puisqu'il avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il a changé d'avis en 4 ans ou...
Mais les deux expressions sont exactes. On peut parfaitement considérer que la colonisation fut un crime contre l'humanité. On peut discuter cette formulation précise. Mais en tout cas, que ce fut une œuvre historiquement totalement injuste et à l'égard du peuple algérien de ses revendications légitimes, c'est une donnée. Et le président Macron a eu, à mon avis, raison de l'affirmer. Mais ça n'empêche pas de dire, ce sont deux réalités différentes, que depuis cette guerre atroce est menée de façon tout à fait injuste et cruelle par la France, il n'empêche que le régime algérien surexploite ce contexte de guerre.
Et ne fait pas d'efforts.
Au lieu de s'occuper de ses propres problèmes intérieurs, parce qu'il dispose tout de même d'une rente pétrolière et gazière considérable pour équiper le pays et réduire les inégalités, ce qu'il n'a pas fait.
Dernière question, jusqu'où ira cette crise ? Est-ce que l'ambassadeur algérien va finir par revenir après un coup de fil au bout de 2 semaines, comme l'ambassadeur français qui était revenu de Washington ou pas ?
Pour l'instant, c'est de la gesticulation diplomatique. Je pense pas qu'on ira vers une étape de type rupture, pas du tout. c'est juste l'installation d'une réalité. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte de la guerre malienne dans laquelle l'Algérie, qui est en bordure nord de la zone sahélienne, n'a pas montré une coopération particulière vis-à-vis de la France. Et la France a de bonnes raisons aujourd'hui d'en vouloir à l'Algérie, indépendamment du contexte historique de la guerre d'indépendance algérienne, qui était sans doute juste du point de vue des droits algériens, mais ça n'empêche pas que le FLN au pouvoir depuis 1962 n'a pas réussi. La preuve, c'est l'immigration algérienne qui était encore énorme, immigration qui se dirige principalement vers la France. Sur la question des visas, je voudrais rappeler que l'Algérie a accordé seulement 22, je dis bien 22 autorisations de retour sur son territoire. Paris a donc raison de protester contre le refus des auto-algériens.
De reprendre les clandestins algériens expulsés de France. Effectivement, la non-application et exécution des obligations de quitter le territoire français, et dire que l'Algérie va bientôt célébrer l'anniversaire de son indépendance. Effectivement, il y a de quoi se dire que la réconciliation entre les deux pays n'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup, Christian Macarian.
Je vous en prie, bonne journée.
Et bonne journée à vous et à une prochaine fois dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes éditorialiste spécialiste de la politique internationale. Tiens, on va parler dans quelques instants d'un candidat qui n'est pas très tendre non plus, qui l'est même encore moins qu'Emmanuel Macron, sur le régime algérien. Il s'agit d'Éric Zemmour, pas encore officiellement candidat, mais c'est le candidat de la semaine. Est-ce qu'il est en train de grignoter le Rassemblement National et la candidature de Marine Le Pen ? On en parle avec Bruno Cotteresse dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio.